Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, le magazine qui est à l'écoute ou qui est là pour apporter des solutions, des conseils pratiques, des astuces à vos problèmes de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Kuluna. Comment lutter efficacement contre la recrudescence de ce phénomène dans les quartiers populaires de Kinshasa, de Lubumbashi et d'ailleurs. Professeur Raoul Kienge-Kienge, Raoul Kienge-Kienge, directeur de l'école de criminologie à l'université de Kinshasa, est notre invité aujourd'hui. Monsieur Raoul Kienge-Kienge, bonjour.
Bonjour, monsieur Sassi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants pour échanger sur les mesures efficaces pour lutter contre la recrudescence du phénomène Kuluna. Quelle est l'importance du don volontaire des sangs? On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec M. Paul Kabamba Muninga, directeur adjoint du Centre National des Transfusions Sanguines. Voilà ainsi présenté le menu d'Okapi Service de ce jour. Pour participer à cette émission de la vie au quotidien, appelez-nous au 099 706 9941 pour vous inscrire. Nous allons vous rappeler pour poser vos questions, participer à cette émission de la vie au quotidien. Laissez un commentaire sur la page Facebook d'Okapi Service. Dieudonné Nyangassa assure la mise en onde, Tati Mabuku à la coordination et à la réalisation. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez. Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission Okapi Service. Le phénomène de banditisme urbain, appelé Kuluna, ne cesse de prendre de l'ampleur dans les quartiers populaires de Kinshasa, de Lubumbashi et d'ailleurs. Ces bandes de jeunes délinquants armés de machettes continuent à s'aimer la terreur. Ils volent, agressent les paisibles citoyens, violent les femmes et tuent parfois. Malgré plusieurs opérations policières comme l'ICOFI 1 et 2, Panthère Noire, ces groupes criminels ont su se réorganiser. En décembre 2024, le ministre de l'Intérieur a lancé l'opération Dobo afin d'éradiquer ce phénomène. Alors, quelles sont les stratégies efficaces pour lutter, enrayer le phénomène Kuluna qui, au fil des ans, s'est enraciné dans la précarité et le chômage des jeunes? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien avec le professeur Raoul Kienge-Kienge, directeur de l'école de criminologie à l'université de Kinshasa. Professeur Raoul, ravi de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons du phénomène Kuluna qui reprend d'ampleur dans les différents quartiers populaires de la ville de Kinshasa. Alors, il y a eu plusieurs opérations, comme je l'ai dit tout à l'heure, opération l'ICOFI 1, 2, Panthère Noire. Aujourd'hui, on parle du phénomène Dobo. Alors, selon vous, comment enrayer ce phénomène qui, selon plusieurs personnes, ces phénomènes, on n'arrive pas à mettre fin à cela, ça continue. On a l'impression que ça s'arrête un moment et puis ça reprend de plus belle.
Merci beaucoup, M. Tati, de l'occasion que vous me donnez d'échanger avec vos auditeurs, les auditeurs de Radio Okapi sur cette question d'actualité, cette question qui est effectivement importante hein, et qui concerne plusieurs villes. Vous avez cité Kinshasa, Lubumbashi, mais il y a aussi Matadi, il y a aussi Kikwit, il y a aussi des cités comme Idiofa, où des études ont été menées, ont montré qu'effectivement ce phénomène est en train de s'étendre sur plusieurs villes et cités de la RDC. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'opérations policières qui ont été réalisées depuis 2013. Hein, souvenez-vous justement de l'opération Likofi que vous avez nommée. Donc ça fait plus de 10 ans que, en tout cas, l'autorité publique est en train de gérer ces problèmes. Et il semble que cette stratégie répressive et judiciaire ne porte pas de fruits parce que les jeunes sont arrêtés, jugés, condamnés, mais évidemment, ils ne restent pas tout le temps en prison. Ils se retrouvent dehors à la suite de plusieurs mécanismes et donc ils reprennent effectivement ces activités. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est dans quel contexte cette violence émerge, dans quel contexte de vie cette violence se réalise. Vous avez nommé les quartiers populaires de la ville ou des villes, et la question c'est quel est le contexte de vie sociale, économique dans ces quartiers populaires de nos villes et de nos cités. Moi, je pense que l'approche qui conviendrait d'adopter, c'est justement une approche qui tend à transformer le contexte de vie des jeunes. Parce que le contexte que nous avons étudié à Kinshasa, à Kimbaseke, Angili, Mombele et Kisenso, c'est un contexte de précarité de vie. Des jeunes n'ont pas beaucoup d'issues pour une vie meilleure. Les jeunes sont parfois frustrés de voir qu'ils ont l'impression de venir accompagner d'autres sur Terre, dans cette ville. Hein, certains vivent bien et d'autres vivent moins bien. Ils n'ont même pas accès. Ils ne mangent pas correctement. Ils n'ont pas accès au droit au logement, aux soins de santé, à l'emploi, à la formation professionnelle. Non seulement eux, mais aussi les parents. Avec lesquels ils vivent, parce que justement les jeunes dits Kuluna vivent avec leur famille hein, dans ces conditions de précarité. Et donc dans les études que nous avons faites effectivement depuis une dizaine d'années,
oui.
nous avons compris ce que cela représente pour eux. Nous n'avons pas cherché les causes justement, mais nous avons essayé de comprendre la signification de cet acte de prendre la machette et de ravir des biens aux autres citoyens. Et ça a été vraiment très éclairant de comprendre que le Kuluna pour ces jeunes, c'est un job. C'est le job de la machette. Hein? Et c'est une activité qu'ils considèrent comme génératrice de revenus en fonction effectivement des ressources dont ils disposent parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Et donc, nous avons pensé à réfléchir à travailler pour leur offrir une alternative économique, parce qu'effectivement, le premier besoin, c'est le besoin économique. Il faut qu'ils soient en mesure hein, de manger et de se soigner. Et c'est face à tous ces besoins-là, évidemment, qu'ils prennent la machette pour aller chercher l'argent. Et donc, leur trouver une alternative économique. Et cette approche que nous avons appelé une approche d'accompagnement hein, holistique de proximité d'émancipation par la réinsertion socio-professionnelle des jeunes pour la sortie des violences, approche APR, a permis effectivement à quelques jeunes sur qui nous avons expérimenté cette approche à sortir effectivement de la violence. C'est une approche qui se veut communautaire, parce qu'il s'agit vraiment de développer une approche de proximité, un accompagnement de proximité, un dialogue instaurer un dialogue au niveau des quartiers avec ces jeunes pour comprendre leurs difficultés, leurs défis et les accompagner dans la mesure de trouver une alternative. Une alternative qui leur permet de se valoriser, d'être utile à la société. Et ça a donné des résultats impressionnants. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec un certain nombre d'acteurs sociaux pour sensibiliser les communautés, surtout les structures qui travaillent avec des jeunes, hein, de pouvoir monter un projet pour accompagner ces jeunes. La demande est très forte. La demande est très forte, mais on n'a pas de moyens. Nous, ce que nous avons fait en tant qu'universitaires, c'est d'expérimenter cette approche, de trouver une solution scientifique, théorique, de l'expérimenter sur le terrain, hein, sur une quarantaine de jeunes qui aujourd'hui sont vraiment sortis de la violence. Et on continue le contact avec ces jeunes dans différents quartiers, peut-être qui sont en train de vous suivre tout à l'heure.
D'accord. Professeur, donc, si je comprends bien, l'approche répressive ne marche pas. Donc, il faut plutôt trouver une autre approche que vous avez appelée communautaire.
Oui, il faut une approche préventive. Hein. Il faut vraiment travailler sur la prévention, ce qu'on appelle habituellement la prévention, parce que vous savez, même la répression n'est pas une fin en soi. La répression vise aussi la prévention. Vous voyez ? Alors, si on se limite à une simple répression, alors on va être en train de tourner en rond, parce que le jeune va être réprimé et va sortir finalement de la prison ou même va être libéré avant d'être jugé devant par un juge au niveau du parquet. Il va retrouver le même contexte de vie qui est un contexte de non-accès aux droits économiques et sociaux de base. Et donc, c'est toujours un problème et il ne peut pas rester inactif. Hein. Il doit trouver une solution à son niveau en tant que personne pour vivre, voyez. Et donc, en fonction de ses ressources, bien, il utilise les moyens qu'il peut utiliser pour vivre. Et il n'est pas seul, il s'associe avec d'autres dans cette finalité-là. Et parfois, l'activité de Kuluna est alternée avec une autre activité de débrouille, évidemment, de survie, qui parfois donne des moyens et parfois ne donne rien. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que l'activité de Kuluna, que moi j'appelle le job de la machette, est utilisé par un certain nombre de jeunes pour pouvoir justement non seulement accéder aux biens économiques, mais aussi se valoriser dans la société parce qu'ils sont aussi instrumentalisés par certains acteurs politiques.
Bien, donc vous utilisez une approche, déjà ça marche avec une quarantaine de jeunes Kuluna. Aujourd'hui on peut dire qu'ils ont abandonné le job de la machette et qu'est-ce qu'ils font comme alternative?
Alors justement, nous avons échangé avec eux, nous avons travaillé avec eux pour qu'ils choisissent une activité. Donc, il y en a qui ont fait l'ajustage, aujourd'hui ils sont ajusteurs et ils sont contents que dans leur quartier on les appelle ingénieurs. Hein. Il y en a qui sont dans la couture, qui sont tailleurs, il y en a qui sont menuisiers et il y en a c'est la couture, la menuiserie et l'ajustage. En tout cas avec lesquels nous avons travaillé et ça a donné de très bons résultats et d'ailleurs c'est une activité que nous avons commencé à l'occasion de Covid-19 parce que dans ces quartiers-là il n'y avait aucune réponse étatique et donc nous avons approché les jeunes qui ont confectionné des masques et des dispositifs de lave-main à l'aide des assisteurs qu'ils connaissaient et ils ont appris les métiers à cette occasion-là. Ils ont confectionné près de 8000 masques ou des cache-nez qu'ils ont distribués dans leur quartier au grand étonnement de tout le monde. Ils ont confectionné justement des dispositifs de lave-main qu'ils ont placés dans leur quartier. Et nous, on a, avec la subvention que nous avions, on leur a ajouté des seaux et des savons. Et donc, ces jeunes ont participé à la sensibilisation dans le cadre des mesures barrières contre David et contre la COVID dans leur quartier. Et donc, c'était vraiment impressionnant. Et ils ont développé ces activités après avoir confectionné des masques. Ils ont confectionné des uniformes qu'ils ont distribués justement dans certains de leurs quartiers. Et ce qui était frappant, c'est certains qui disaient, nous, on est des jurys, nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Et nous avons confectionné des uniformes pour leurs enfants, pour qu'ils aillent à l'école. Voyez. Donc, les jeunes sont capables de participer à la vie communautaire à la condition qu'ils soient accompagnés. Voilà pourquoi nous les considérons comme des jeunes vulnérables. Nous les regardons comme des jeunes vulnérables qui n'ont pas accès aux droits socio-économiques de base. Et donc, l'approche que nous utilisons, l'approche d'accompagnement, consiste à leur permettre d'accéder à ces droits économiques, à ces droits sociaux, à ces droits culturels. Et ils sont réhabilités socialement. Ils participent à la vie communautaire. Ils ont aussi besoin de dialoguer avec les instances locales qui les considèrent toujours comme des jeunes dangereux et tout cela. Parce qu'ils ne portent pas la machette toute la journée. Hein. Il y a des moments où c'est un jeune qui est, disons, qui a un esprit compréhensible, qui est avec qui on peut dialoguer. Et c'est justement à cette occasion-là que les dialogues doivent être initiés au niveau communautaire. Et nous avons trouvé beaucoup de ressources. Nous avons des circuits d'opportunités par lesquels ces jeunes peuvent sortir de la violence. Hein, il y a des ateliers, ces ateliers d'ajustage qui sont sur nos avenues. Hein, c'est ailleurs qui sont dans les quartiers, qui sont connus, qui développent d'ailleurs des relations de confiance avec les jeunes. Hein. Et donc, ils sont des stupides opportunités que nous avons pu mobiliser et qui ont accompagné les jeunes hein, avec le centre de criminologie de l'UNICIM pour pouvoir justement les aider à sortir de la violence. Et moi, je reste toujours impressionné par les résultats que l'on est gardé.
Bien, comment lutter efficacement contre la recrudescence du phénomène Kuluna? Vous avez des questions, des préoccupations? Le standard est déjà ouvert, composez le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, comment lutter efficacement contre la recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa, Lubumbashi ou dans d'autres villes à travers le pays? Notre invité nous dit que l'approche répressive ne marche pas toujours. Il faut plutôt adopter une approche d'accompagnement, les apprendre un métier, voilà, pour et les réinsérer, les réhabiliter dans la vie sociale. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oh, bonjour, monsieur Jeudi, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup pour la thématique du jour. J'aime un peu les explications de notre invité. Mais moi, malgré que dans les quartiers où je reste, il n'y a pas vraiment les mouvements de Kuluna, les mouvements de machettes et les autres là. Mais un constat que j'ai fait, parce que souvent je fréquente la commune de Limété, dans un endroit où je reste, dans les quartiers Mumbele, vous allez voir que la plupart des enfants Kulunana, ce sont les parents qui ont vraiment une grande responsabilité par manque d'éducation. Si vous regardez un enfant qui commence à l'âge de 10 ans, de 12 ans, qui commence lui-même à sortir, à aller chercher quelque chose à manger et puis de se rassembler avec, et de faire un rassemblement avec d'autres petits qui n'ont pas vraiment l'éducation, c'est ça aussi un grand problème. Lorsque vous voyez les parents qui ont vraiment laissé aller dans un âge où on peut encadrer l'enfant, mais l'enfant se promène partout, l'enfant fait du n'importe quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé, que l'invité a dénoncé, c'est la pauvreté aussi. Lorsque les parents aussi n'ont pas les moyens, c'est ce qui fait aussi que les enfants puissent aussi se chercher.
Quelle est la question, Roger Marcel?
Ouais, la question que j'aimerais un peu demander à notre invité, parmi les enfants aussi qu'ils ont eu aussi à former, est-ce que ces enfants-là, dans un certain moment, ils ont toujours aussi les habitudes de penser à retourner encore? Parce que nous voyons aujourd'hui avec ce que l'État congolais fait avec les enfants qui partent vers Kanyemaka-Sese, ces enfants-là, lorsqu'ils retournent ici, ils font aussi un bon travail. Mais pourquoi pas aussi multiplier un peu ce système-là dans plusieurs quartiers pour qu'on puisse un peu identifier un peu les enfants qui font un peu des cas comme ça, qu'on puisse aussi les réintégrer dans les couples-là, que les enfants aussi puissent aussi changer d'être aussi les baptiseurs, de faire aussi comme les autres ont déjà commencé à faire ça. Si je pense que l'invité pourrait me répondre à cette question, ça serait mieux.
Bien, merci beaucoup. Professeur Kenge Kenge, à vous la parole.
Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question intéressante. Hein, l'approche de Kanyemaka-Sese, c'est une approche étatique, mais qui n'est pas répressive, vous voyez. Et donc, l'État ne fait pas que la répression. L'État ne devrait pas faire que la répression. L'État devrait développer aussi d'autres approches qui ne sont pas répressives et qui sont, je dirais, plus bénéfiques pour les jeunes, pour leur épanouissement, pour leur accompagnement, pour leur formation professionnelle, pour qu'ils soient utiles à la société. Parce que les jeunes qu'on envoie, évidemment, en prison, ben, ils vont apprendre la délinquance là-bas. Ils vont sortir pire qu'ils n'y sont. Et d'ailleurs, un des jeunes avec lequel nous avons travaillé dans le cadre de l'approche APR, hein, disait, moi j'ai fait la prison deux fois, mais prison était à Kinga-Pesam à la Moutée. Hein, c'est quand il est entré en contact avec nous, dans cet accompagnement de dialogue, en le respectant avec empathie, hein, que le jeune s'est senti valorisé. Aujourd'hui, il fait des carrosseries, des grands véhicules, etc., parce qu'il est ajusteur, vous voyez. Et donc, l'approche de Kanyemaka-Sese est intéressante, évidemment. C'est une approche étatique à encourager et à diffuser dans les quartiers, dans la mesure où, effectivement, ces jeunes apprennent un métier, ils deviennent bâtisseurs, ils sont utiles, ils confectionnent des lits pour des hôpitaux, des bancs pour des écoles. À l'université, nous avons reçu aussi des bancs qui étaient confectionnés par des jeunes, justement, qu'on réduisait à leur statut de Kuluna, n'est-ce pas? Et donc, moi, j'encourage cette approche-là. Tout ce que je peux dire, tout simplement, c'est le fait qu'effectivement, c'est une approche en milieu fermé. Hein? Et quand on voit l'ampleur des jeunes qui sont dans cette situation, eh bien, Kanyemaka-Sese ne pourra pas accueillir tous ces jeunes, d'une part. Et d'autre part, il faudrait éviter de les stigmatiser dans le cadre de cette approche, parce que les jeunes qui sont effectivement envoyés à Kanyemaka-Sese, comment sont-ils recrutés, entre guillemets, hein? C'est à travers des rafles policières. Et donc, pourquoi ne pas aller dans les quartiers et proposer aux jeunes une alternative en disant, voilà, nous sommes là, nous voulons recruter des jeunes qui veulent aller à Kanyemaka-Sese pour apprendre des métiers et devenir des bâtisseurs de la nation. Hein? Et ces jeunes, évidemment, vont se présenter volontairement, vont adhérer, je suis sûr, et vont apprendre plutôt que de les rafler, n'est-ce pas? Parce que la rafle, et je me rappelle le discours d'une des autorités urbaines, quand on a envoyé le premier groupe à Kanyemaka-Sese, il disait, voilà, vous allez partir là-bas pour souffrir, parce que vous avez fait souffrir des gens, etc. Vous allez revenir avec des dents jaunies, des calvities, etc. Ce n'est pas un discours tout à fait encourageant, vous voyez. Ça, c'est un discours de stigmatisation. Donc, je pense que on peut développer cette approche de Kanyemaka-Sese, parce que c'est une approche où l'État investit beaucoup de moyens, effectivement, et je pense que là, beaucoup de jeunes peuvent redevenir utiles. Parce que c'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent. En fait, quand un enfant vient au monde, c'est pas au berceau qu'on l'appelle Kuluna, n'est-ce pas? C'est plus tard qu'il devient Kuluna. Parce que au niveau de la famille, probablement, il y a eu beaucoup de limitations, parce que l'État au niveau local n'est pas intervenu, parce que l'État au niveau national est intervenu par la répression, oui, et non par une approche d'émancipation des jeunes. Et donc, je pense que vraiment, il faut changer d'approche. Il faudrait qu'on soit proche des jeunes pour les aider à s'émanciper, à devenir utiles à la société.
Bien, on peut dire que le phénomène Kuluna est l'expression d'un malaise social, l'expression des frustrations, suite à la précarité de la vie.
Exactement, c'est ce que nous avons dit dans les deux ouvrages que nous avons rédigés sur la violence urbaine à Kinshasa. Nous avons constaté tout cela après avoir fait un travail de terrain, travail d'enquête, on a fait des entretiens avec des jeunes et avec beaucoup d'autres structures et même avec des policiers. En fait, le phénomène Kuluna est une réponse des jeunes frustrés à une première injustice, à une première violence institutionnelle. C'est la violence de l'État qui les laisse vivre dans des conditions inhumaines, dans des conditions de pauvreté absolue. Il faut visiter ces quartiers où le Kuluna se développe pour voir les taudis dans lesquels
ils vivent.
Des questions environnementales qui brisent le cœur. C'est-à-dire comment des personnes humaines peuvent vivre dans un pays très riche comme la RDC dans ces conditions-là. Donc ça crée un contraste très fort. Voyez, et donc je pense qu'on doit changer d'approche parce que le capital d'un pays, le premier capital d'un pays, c'est la population, c'est la jeunesse. C'est un capital qu'on est en train de ne pas exploiter à sa juste valeur pour que la RDC soit grande comme elle aspire à être grande. Vous voyez? Et donc là, il y a un capital humain qu'on n'est pas en train d'exploiter correctement. Je pense qu'il faudrait qu'on change d'approche, une approche plus d'émancipation des jeunes, une approche qui rend les jeunes utiles à la société, responsables, et c'est tout ce qu'ils attendent, d'être soutenus, d'être accompagnés. Moi, je reçois des appels des jeunes avec lesquels j'ai travaillé. Ils disent, si vous voulez encore commencer une autre opération, nous sommes disposés à former les autres pour transmettre ce que nous avons reçu. Et ils sont très reconnaissants. Et mais ils ne gagnent pas beaucoup avec le travail qu'ils font. Mais ils sont reconnus socialement. Ça aussi, c'est un capital humain, c'est-à-dire le fait d'être reconnu socialement. C'est un capital social qu'il faut valoriser, même si on ne gagne pas beaucoup, mais le fait d'être respecté par les autres, bien regardé par les autres, permet à la personne d'être sereine.
Bien, on va accueillir Mathieu qui nous appelle de Bukavu. Nous parlons de la lutte contre le phénomène Kuluna à travers le pays. Mathieu, bonjour et quelle est votre question ?
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Oui, Mathieu, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au phénomène Kuluna?
En fait, je suis en train de... Je voulais juste poser trois questions par rapport à cette thématique. La première question, je voulais savoir quel est le bilan aujourd'hui, le bilan du service national pour les encadrements ou pour l'encadrement de la jeunesse des élèves dans la rue de Kinshasa. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quel est le rôle du ministère de la Jeunesse dans l'encadrement de ces jeunes de Gévrey?
Bien, merci.
Et enfin, oui. Et quelles sont les motivations?
Oui, allez-y, allez. Mathieu.
Oui, la dernière question, je voulais savoir quelles sont les motivations qui poussent les jeunes ou la jeunesse de Gévrey à entamer la rue? La motivation clé.
Voilà, quelles sont les motivations qui poussent ces jeunes à s'adonner à ce genre d'activité? Merci beaucoup. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, Jody. Moi, je pense, à mon avis, que lorsque les parents qui mettent au monde ces gens qui sont jurés transformés à Kuluna, mais tant qu'ils ne seront pas conscients, les choses ne changeront pas. Et puis aussi, l'État, l'ordre public, qui est censé instaurer l'ordre public, lorsqu'elle demeurera faible et inexistant, et les choses ne changeront jamais. Parce que les problèmes, c'est au niveau des parents qui mettent au monde ces enfants qui ne sont pas en mesure d'élever, qui trouvent le travail facile pour eux, c'est de faire ce qu'ils font là, et que la justice, qui devrait normalement réprimer, parce que s'il y avait répression, peut-être il y aura la paix dans les chefs de ceux qui pouvaient s'agarrer dans l'avenir. Avec cette police que nous avons, que vous connaissez, remplie de corrompus, hein, des gens qui quittent leur maison pour venir chercher les paix, hein, des enfants, les paix journalistes des enfants, même s'il y a possibilité de les trimer. D'ailleurs, ils travaillent en connivence avec ces gens-là pour trouver ces paix-là. Donc c'est vraiment une population non contrôlée, l'État qui n'existe pas, qui fait que la situation, et ça s'empirera de plus en plus si on ne prend pas en compte ces aspects-là que je dis, la présence de l'État, mais aussi la conscience des parents. Hein. Vous trouverez un papa qui n'a pas même de revenus, qui n'a pas un avenir avec 10 enfants, 7 enfants dans la parcelle. Hein. Des enfants qui ne fréquentent pas des écoles. Vous les verrez dans les groupes là où ils prennent des poissons alcooliques. Et en fin de compte, c'est concevoir des crimes, hein,
oui.
Des vols, des meurtres, des trucs comme ça.
D'accord, merci.
Quand on est organisé, on doit contrôler le peuple.
Voilà.
On doit savoir qui est qui fait quoi.
Bien, merci beaucoup Gaston, voilà. Gaston de Kinshasa. Thomas, vous êtes à Kisangani, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour monsieur Jody.
Oui, bonjour.
Bonjour à l'invité, aussi à tous les auditeurs de la radio, au Capi. En tout cas, monsieur, je dis, le phénomène du banditisme, en tout cas, en RDC, constitue, en tout cas, un défi majeur pour la sécurité, mais également le bien-être de la population. Surtout parce qu'on voit les phénomènes criminels, là, tels que les vols, armés, mais aussi l'agression, sont devenus, en tout cas, monnaie courante ici, la plupart des villes ici en RDC. Par exemple, ici chez moi, à Kisangani, en tout cas, ces derniers temps, on fait face en tout cas des phénomènes de banditisme là presque partout ici, parce qu'ils ne passent pas une nuit sans qu'on puisse cambrioler ou voler par-ci, par-là. Et nous ici, on est vraiment fatigués de ça, parce qu'il y a l'autorité communale qui a quand même organisé... Il a sensibilisé la population en donnant par exemple des clés pour alerter à tout moment, pour à cas de moment où ces voleurs là pour venir, surtout pour informer ou alerter les agents de la sécurité. C'est très important, en tout cas, l'initiative que l'autorité communale a eu à faire. C'était pour évoluer
Thomas, pour le cas de Kisangani, est-ce que c'est toujours le phénomène Kuluna ou c'est tout simplement des bandits armés qui inquiètent la population?
Non, généralement, ce sont toujours les jeunes du milieu. C'est toujours les jeunes du milieu parce qu'il y a des fois où il y a même des cas de justice populaire. Récemment, on a brûlé, c'était le samedi dernier, où on a brûlé les jeunes. Là, c'est toujours les jeunes du milieu. C'est-à-dire, les cas de sécurité, pour le moment, c'est qu'ils repassent ici à Kisangani. C'est toujours les affaires du milieu qu'il faut impliquer dans ça. Ce sont des bandits, là, du milieu seulement, comme... Ils n'ont pas du boulot, peut-être c'est ça qui les pousse à ça. Mais aussi, on doit, je parlais de l'autre, on doit aussi voir qu'est-ce qui pousse les jeunes à pratiquer de pareilles pratiques. Là, quelque part, là, il y a aussi la question là du chômage aussi, monsieur Jody. Même si ce n'est pas la principale cause, mais on ne peut pas écarter l'affaire là du chômage. Parce que le chômage, lorsque quelqu'un n'a rien à faire, il n'a pas l'emploi, il n'a pas du boulot, quelque part là, ça peut également les pousser à prendre les armes, à cambrioler ou à voler par-ci, par-là. Quelque part aussi, le chômage joue énormément ou a des rôles catastrophes. Mais pour qu'il y ait aussi des... catastrophes. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? C'est d'abord d'identifier les... Parce qu'avant de s'attaquer aux conséquences, il faut identifier les causes. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire des pratiques pareilles? Deuxièmement, il faut qu'il y ait aussi amélioration et la collaboration avec les autorités. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la collaboration d'une part entre les autorités et la population. J'ai parlé ici que l'autorité a organisé des séances d'échanges avec la population. C'est tout ça dans le but qu'il y ait la collaboration. C'est-à-dire, une fois que vous voyez quelqu'un qui est suspect, vous pouvez directement le dénoncer aux autorités, parce que l'affaire de sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit s'impliquer, c'est-à-dire, sachant moi, sachant tout le monde doit s'impliquer pour faire face à ces phénomènes. Mais également, il faut qu'il y ait les renforcements de sanctions. Une fois, on arrive à appréhender quelqu'un en train de voler ou en train de faire. D'ailleurs, je dénonce d'abord ce qui s'est passé à Kisangani. Il y a des cas de justice populaire. Normalement, on ne peut pas encourager la justice populaire.
Merci beaucoup, mais Thomas de Kisangani. Merci.
Par personne, on doit les dénoncer à la justice et la justice de sanctionner le coupable.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Kenge Kenge.
Oui, merci. On m'a demandé de dire un mot sur le bilan du service national à Kinshasa. Nous n'avons pas encore étudié cet aspect-là. Nous n'avons pas encore évalué scientifiquement le bilan de cette approche étatique non répressive qui est en même temps paramilitaire, hein, parce qu'effectivement, le service national, c'est un service paramilitaire. Mais il y a une étude, effectivement, qui est en train d'être faite. Il y a un mémoire de master en criminologie sur cette activité-là. Peut-être que nous pourrons avoir des données plus sûres hein, pour pouvoir en parler. Mais à première vue, de manière tout à fait ordinaire, je dirais le travail de service national est très appréciable avec ces jeunes qui sont actuellement d'ailleurs en train de construire une certaine arena, et donc selon ce que j'ai appris, et vous voyez que c'est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'étais une fois à Kananga, et j'ai vu comment les personnels de l'auditorat militaire allaient recevoir des sacs de maïs produits par des jeunes qui étaient à Kanyamakasete. Et donc, à partir de ces éléments-là, je peux dire que c'est une approche qui est positive, mais qui peut être améliorée, comme j'ai dit tout à l'heure, par la question de la stigmatisation qui est au départ du processus. On devrait plutôt favoriser une adhésion volontaire à cette approche, parce que c'est très important. C'est aussi une manière pour les jeunes de prendre conscience de sa conversion. Quel est le rôle du ministère de la Jeunesse, a-t-on dit? Bien, ce n'est pas seulement le ministère de la Jeunesse. Il faut une action concertée, justement, de plusieurs ministères, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau provincial, n'est-ce pas? Il y a le ministère de la Jeunesse, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère de Genre, Famille et Enfants, il y a aussi le ministère de l'Emploi, le ministère de la Formation professionnelle, et donc toutes ces institutions étatiques devraient plutôt se concerter pour définir une stratégie nationale justement de réinsertion ou de formation professionnelle des jeunes. C'est la main d'œuvre. Ces jeunes constituent la main d'œuvre et ils ont des talents, hein, ils ont des capacités. Quand moi je vois les portails hein, que font ces jeunes qui sont dans l'ajustage, mais c'est impressionnant, ce sont des génies, et on est en train de passer à côté hein, de tout ce savoir, de tout cet exercice technique, n'est-ce pas, qu'on n'est pas en train de valoriser. Aujourd'hui, personne ne construit une maison sans faire appel à un ajusteur. Et là, on a vraiment des jeunes qui se débrouillent dans ce domaine-là, et qui ne sont pas valorisés. Donc, je pense que il faudrait vraiment regarder la société en face, tenir compte de cette réalité-là, parce que nos rues sont remplies de ces ateliers qui fonctionnent en plein air. Pourquoi qu'on ne peut pas les encadrer? Et justement, ce que nous avons fait, c'est identifier des chefs d'atelier, hein, d'ajustage, de menuiserie, de taillerie, de couture, et dire, est-ce que vous êtes disposé à accueillir deux ou trois jeunes pour les accompagner, les former à votre métier, et nous avons pu équiper cet atelier. Et donc, si on continue avec cette démarche, la plupart d'ateliers qui sont dans les quartiers vont être équipés et vont quitter le statut d'unité économique informelle vers des unités formelles. Et c'est ce qui s'est passé à Kinshasa.
Oui, professeur Kenge Kenge. Oui, c'est très bien cette approche d'accompagnement et de réhabilitation sociale de ces jeunes, mais ceux-là qui sont actifs, qui continuent encore à tuer, à blesser les gens, qu'est-ce qu'il faut faire de cette catégorie-là, des jeunes? Faut-il les arrêter, voilà, les envoyer en prison, les juger? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Évidemment, la justice pénale doit toujours intervenir. On ne va pas fermer les parquets ni les tribunaux répressifs. Ils devront toujours intervenir parce que lorsque quelqu'un a attenté, est arrêté, hein, n'est-ce pas, en train d'attenter aux droits des autres, évidemment, la justice pénale doit pouvoir intervenir. Mais tout en sachant que ce n'est pas la seule solution. Même si on l'envoie à Makala, il faut un accompagnement pour qu'il soit en mesure d'être utile. Parce que si on l'envoie à Makala comme un garage où il va attendre, où il va même apprendre beaucoup de choses, on l'envoie en prison, il va apprendre beaucoup de mauvaises choses, eh bien, on a l'impression que tout le travail que la justice pénale a fait ne représente pas grand-chose pour la société. Parce qu'on va revenir au point de départ. Donc, si on doit mobiliser cette approche répressive pour des cas qui sont avérés, évidemment, il faut considérer que cette approche répressive à elle seule ne suffit pas. Parce qu'en fait, l'approche d'accompagnement, l'approche d'émancipation, c'est non seulement pour ceux qui ne sont pas arrêtés, qui n'ont pas pu entrer dans les circuits judiciaires, ou qui sont entrés et qui sont sortis, donc c'est une approche à milieu libre, mais également, on doit réfléchir à une approche pour ceux qui sont ceux qui ont pu entrer dans le cadre de ce circuit judiciaire. Et la loi sur le régime pénitentiaire prévoit effectivement des mécanismes d'accompagnement des jeunes qui sont en prison. Et la question aussi qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui de nos prisons? Quel est le rôle de nos prisons dans dans le bon fonctionnement de la société, si vous voulez? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, la prison comporte beaucoup plus d'inconvénients, pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et donc là aussi, c'est une réflexion que nous devons avoir. J'espère que les moyens vont être mis en œuvre pour pouvoir appliquer ce que la nouvelle loi de 2023 prévoit dans le domaine de la gestion des prisons. Parce qu'il faut accompagner. Et il y a toute une réinsertion, tout un chapitre sur la réinsertion des personnes condamnées. Et on ne doit pas aussi remplir la prison des jeunes qui ne sont pas jugés, qui sont en détention préventive. La prison n'est pas faite pour simplement les gens de détention préventive. Donc, là aussi, au niveau des parquets, on doit réfléchir à la manière d'utiliser les dispositions légales qui permettent de priver la liberté à quelqu'un, parce qu'on a même l'impression que la précarité a aussi investi le milieu des magistrats du parquet. Et là aussi, c'est un autre problème. Vous voyez? Donc, c'est tout cela qui permet de dire que la réponse judiciaire, même si on doit la mobiliser, elle ne doit pas être la seule. Et on ne peut pas dire on l'a condamné et puis c'est fini. Non. Il y a tout un travail qu'il faut faire avec la personne pour son émancipation afin qu'elle devienne utile à la société.
Bien. Comment lutter efficacement contre le phénomène Kuluna à travers le pays, à Kinshasa, Lubumbashi, à Kisangani ainsi que dans d'autres villes du pays? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le professeur Raoul Kingé, directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Nous avons en ligne Prosper Mbouy de Lubumbashi et Albert Chinyabuguma depuis l'île d'Idjui au sud Kivu. Prosper Mbouy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi, bonjour à l'invité.
Bien. Oh là là, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes. Allô, Prosper.
Je disais le phénomène des Kuluna. Allô, je vous suis, monsieur Jodi. Oui. Je suis en train de dire ceci.
Oui.
Le phénomène Kuluna ici à Lubumbashi, c'est vraiment une pratique qui exagère un tout petit peu. Et surtout des vols à main armée, là, nous, on n'en parlait pas. Mais sur ce point, je ne vais pas vraiment m'étaler parce qu'on a remarqué que ce ne sont pas seulement les Kuluna. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ici à Lubumbashi? Il y a beaucoup de jeunes dans la rue qui n'ont pas de travail et qui volent les biens de gens, qui font du mal à des personnes. Mais il y a aussi le travail. Vous savez, comme vous le savez tous, à Lubumbashi, c'est une zone minière. Il y a vraiment des entreprises, surtout dans le secteur privé. Mais vous allez remarquer que ces jeunes ont besoin d'avoir le travail pour pouvoir trouver de l'argent et prendre. Mais quand ils arrivent pour demander le travail, on leur exige encore des sommes importantes d'argent pour être engagés. Et ces derniers, ils manquent de possibilités. Ils se lancent déjà dans la rue, ils commencent à faire du mal aux gens. Maintenant, la question que je voulais poser à l'invité, c'est de savoir quelles sont les dispositions que l'État congolais peut prendre pour pouvoir mettre fin à cette pratique, afin que l'accès vraiment au travail soit facilité. ce qui pourra aider les jeunes à travailler, gagner de l'argent et pouvoir entreprendre. Cette fois-ci, ils vont oublier la machette. Merci beaucoup, monsieur Jody.
Bien, merci Prosper Prosper Mbouyi depuis Lubumbashi. Albert Chinyabuguma, vous nous appelez depuis l'île d'Idjoui. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité Raoul.
On vous écoute.
Oui, moi je voudrais poser la question parce que ces derniers temps en République démocratique du Congo, il y a de ces organisations là qui demandent des financements chaque année, demandant des financements d'encadrement des enfants de la rue. Je voudrais savoir si notre invité, ils ont déjà fait l'étude sur l'impact de tous ces financements qu'on donne à ces organisations qui encadrent ces Kuluna, ou soit chez nous on parle de Maïbobo. Mais aussi, je pense aussi que souvent on voit, on incarcère les Kuluna, on les met en prison, mais on voudrait savoir aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans les pays? Hein? Qu'est-ce que ça a changé depuis qu'on a commencé à incarcérer, mettre en prison chaque fois des Kuluna, des Maïbobo? Qu'est-ce que ça a changé au niveau des juridictions judiciaires? Mais aussi, je voudrais savoir si c'est seulement à Kanyama Kasese où il faut mettre tous ces Kuluna pour leur insertion, leur apprendre des métiers. Parce qu'il y a aussi des Kuluna qui sont à Bukavu qu'on peut transporter à Chabunda et apprendre des métiers. Les pays, nous avons un grand pays où on doit, chaque province, il y a des territoires où il faut transporter tous ces Kuluna, tous ces Maïbobo et apprendre des métiers et demain, ils peuvent construire leurs avenirs.
Oui, Albert, est-ce que je comprends par là que vous voulez dire peut-être qu'on puisse créer dans chaque ville des centres de formation et de réinsertion sociale des Kuluna?
Oui, des Kuluna, des Maïbobo, mais loin des villes. Par exemple, à Bukavu, on les amène à Chabunda. Il faut déterminer les délais qui doivent apprendre tous ces métiers. Par exemple, on peut dire 3 ans à Chabunda. L'enfant là doit quitter à Chabunda et il connaît fabriquer soit l'armoire, les chaises, et ça va changer quelque chose dans ce pays.
Bien, merci Albert Chinyabuguma depuis l'île d'Idjoui au sud Kivu. Professeur Kenge Kenge.
Bien, c'est très intéressant les suggestions qui ont été faites par les auditeurs qui ont posé des questions, qui sont intervenus de Lubumbashi et de l'île d'Idjoui. Et effectivement, la question, c'est la question qui a été posée, c'est savoir qu'est-ce que l'État peut faire justement pour favoriser l'accès des jeunes au travail. Je crois que s'il s'agit là d'un des piliers de l'action du gouvernement, l'emploi des jeunes. Et je suis vraiment d'accord avec ces auditeurs parce que l'État doit favoriser l'emploi des jeunes, c'est-à-dire qu'il faut absolument penser non seulement aux jeunes Kuluna, parce que les jeunes Kuluna sont déjà stigmatisés, c'est un statut social, mais d'autres jeunes qui sont en situation de vulnérabilité peuvent basculer du jour au lendemain, et donc il n'y a pas d'étanchéité entre la catégorie des jeunes que nous appelons Kuluna et d'autres jeunes qui ne sont pas encore qualifiés comme Kuluna, mais qui sont dans la situation de précarité. Donc, je pense qu'il faut une politique d'emploi des jeunes, une politique nationale de formation professionnelle, hein, et de réinsertion professionnelle des jeunes, de réinsertion vraiment professionnelle des jeunes. Et je pense qu'on doit créer des écoles techniques dans plusieurs quartiers pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait, hein. L'Inde l'a fait, les Philippines l'ont fait, et donc aujourd'hui il y a une classe moyenne qui émerge parce qu'il y a des jeunes qui ont appris la technologie et qui sont aujourd'hui très utiles à la société. Donc je pense que, en tout cas nous à l'université, on est disposé à travailler avec les autorités publiques pour pouvoir envisager l'élaboration des politiques d'emploi et des réinsertions professionnelles des jeunes en situation de vulnérabilité. des jeunes qui sont vulnérables. Parce que autant la justice élève une nation, autant le travail humain élève la nation. Et on ne peut pas négliger le travail humain de ces jeunes.
Professeur Raoul, je comprends bien le phénomène Kuluna ou le job de la machette, tel que vous l'avez dit, est lié à la pauvreté, à la précarité de la vie. Donc si ces jeunes aujourd'hui sont occupés, ils ont une occupation, ils ont un boulot qui rapporte de l'argent, donc ce phénomène va disparaître.
Le phénomène va disparaître, effectivement. Le phénomène va être résorbé. Et je pense qu'on doit utiliser de manière pragmatique les ateliers qui sont aussi disponibles dans les différents quartiers, les soutenir pour qu'ils passent du niveau informel à un niveau formel et résorbent effectivement toute cette masse de jeunes qui est inoccupée. Ça fait du mal de voir dans certains quartiers des jeunes à ne rien faire du matin au soir. Et comment voulez-vous qu'ils vivent? Parce que la personne humaine a 3-5 besoins fondamentaux. Il doit manger pour vivre, il doit évidemment se vêtir pour être digne, il doit se soigner, il doit être logé quelque part, il doit travailler ou gagner de l'argent honnêtement. Alors si certains besoins qui sont des droits socio-économiques fondamentaux ne sont pas satisfaits, comment voulez-vous que la personne puisse vivre humainement comme une personne? Et donc à ce moment-là, c'est une situation de crise qui amène certains à prendre la machette et à venger effectivement cette forme d'injustice qu'il subit en menaçant la vie des autres ou l'intégrité physique ou les biens des autres. Donc je pense que c'est cela le diagnostic.
Bien, merci professeur Raoul Kenge. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour échanger autour de la lutte contre le phénomène Kuluna qui a repris voilà dans plusieurs quartiers de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani d'ailleurs. Excellente journée professeur et à la prochaine.
Merci beaucoup, au revoir.
Ave Maria, maior matame mati que ele é poder.